France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La descente aux enfers d'un héritier, Arnaud Lagardère, quitte la direction du groupe fondé par son père. Contraint par sa mise en examen hier soir, quelques mois seulement après avoir cédé le contrôle à la famille Bolloré, nous vous racontons cet enchaînement d'échecs. Contrôler les écrans, plus facile à dire qu'à faire pour les jeunes. Des experts remettent leur rapport aujourd'hui à Emmanuel Macron. Il propose d'interdire les écrans avant 3 ans, pas de portable avant 11 ans. Nous verrons comment réagissent les parents. Nous verrons aussi ce qu'il est possible de faire techniquement. À suivre encore, trop de fausses publicités sur le web. Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Jérôme.
La Commission européenne tape sur les doigts de Facebook et d'Instagram.
Oui, les deepfakes avec des voix clonées de célébrités du sport ou de la télé se multiplient sur Facebook et Instagram. Tout ça au profit d'arnaques en ligne et vous allez voir, c'est trompeur.
Vous nous ferez une démonstration extrêmement réaliste. À tout de suite. Des exercices de secours de migrants dans le Pas-de-Calais. Hier, une semaine après le drame de Vimereux, à la une encore la France du train. Décidément à deux vitesses, pas de nouvelle rame avant 2026 ou 2027 sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse. Et puis un Français, pas le bienvenu ce soir à Munich. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour.
L'arbitre de Bayern-Real en Ligue des Champions, c'est le Français Clément Turpin.
Oui, retrouvailles compliquées en perspective. L'an dernier, lors de son quart de finale de la Ligue des Champions, le Bayern n'avait pas du tout, mais alors pas du tout apprécié l'arbitrage de Clément Turpin. L'entraîneur Thomas Tuchel avait vu rouge dans tous les sens du terme.
À tout de suite, à 13h30, nous parlons de l'inépuisable passion française pour les jeux d'argent, quoi qu'il en coûte. Un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards d'euros l'an dernier. Venez nous raconter comment vous jouez et pourquoi. Et si vous vous posez des limites, la présidente de l'Autorité nationale des jeux est avec nous. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. De plus en plus de Français pratiquent la retraite spirituelle. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Le chanteur Axel Bauer demande le guitariste américain Glenn Campbell à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Anatomie d'une chute version Lagardère, nouvel épisode. Arnaud Lagardère n'est plus, depuis ce matin, le PDG du groupe. Il se retire, contraint et forcé. Après sa mise en examen, hier, la justice le soupçonne d'avoir puisé dans les caisses de ses sociétés pour financer son train de vie et elle a prononcé, en attendant que le jugement soit rendu, une mesure provisoire d'interdiction de gérer. C'est un énième revers pour l'héritier de la famille qui, depuis près de 20 ans maintenant, est la mort de son père Jean-Luc, n'en finit pas d'accumuler les déboires. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour.
Vous connaissez parfaitement cette saga, celle des Lagardère. On va remonter le fil avec vous, Philippe. Vous nous rafraîchissez la mémoire. Que représente le groupe Lagardère quand disparaît son fondateur Jean-Luc en 2003?
En 2003, c'est un groupe très puissant dans le monde de l'aéronautique civile et militaire avec EADS, créé notamment à partir de Matra. Matra qui a été l'un des leaders mondiaux des missiles et des satellites dont Jean-Luc Lagardère avait d'ailleurs pris les commandes en 1963. Puis EADS, c'est aussi la maison mère d'Airbus. Et puis, groupe puissant aussi dans l'édition avec Hachette, qui réalisait alors 70% de son chiffre d'affaires à l'étranger, et dans les médias avec Elle, Paris Match, Le Journal du Dimanche et Europe 1. Et d'ailleurs, à propos des médias, Jean-Luc Lagardère avait un jour déclaré qu'il servait à décrocher des contrats, comprenez des contrats dans le secteur de l'armement. Et oui, la diversification, c'était son truc.
Une entreprise qui n'a pas de stratégie n'existe pas.
Et à l'époque, Jean-Luc Lagardère était un patron très présent dans son bureau situé au sommet d'une tour aux vitres dorées qui dominait l'usine Matra de Vélizy-Villacoublay, près de Paris. Un bureau où le petit Arnaud Lagardère venait jouer avec les petites voitures qui étaient sur le bureau de son père. Des Matra, bien sûr, victorieux, je vous le rappelle, 3 fois de suite aux 24 heures du Mans.
Alors que s'est-il passé, Philippe?
Eh bien, passé le choc du décès brutal de son père, Arnaud Lagardère a dû endosser un costume bien trop grand pour lui. Il a vendu un à un tous les joyaux du groupe. Ce qu'il faisait dire récemment à Yves Bourrel, l'un des lieutenants de Jean-Luc Lagardère, que son père, que Arnaud Lagardère, eh bien en fait avait reçu en héritage une marguerite dont il arrachait les pétales année après année.
En réalité, c'est une stratégie délibérée et totalement assumée.
Et puis il y a eu ce qu'on pourrait appeler un péché d'orgueil pour répondre à ceux qui l'accusaient de ne pas être impliqué dans la vie du groupe. Eh bien, Arnaud Lagardère a procédé à un achat massif d'actions qui a fait passer son endettement personnel à plus de 215 millions d'euros.
Alors je l'ai dit, le groupe Lagardère a été racheté en novembre par le géant des médias Vivendi, donc par la famille du milliardaire Vincent Bolloré. Ça veut dire qu'Arnaud Lagardère n'a plus voix au chapitre ?
Alors, il conteste tous les faits pour le moment qui lui sont reprochés, mais ce passionné de sport se retrouve effectivement sur le banc de touche, car ces faits qui sont reprochés sont très graves. On parle d'abus de pouvoir, de diffusion d'informations trompeuses ou encore d'achat de votes. Et tout cela pourrait faire les affaires, effectivement, de Vincent Bolloré, qui depuis 2023 a pris le contrôle de la maison Lagardère et qui pourrait ainsi définitivement se débarrasser d'un partenaire un peu encombrant.
Merci Philippe Lefebvre pour ces explications. Là aussi, il s'agit d'une chute vertigineuse, celle de l'un des acteurs français les plus célèbres, Gérard Depardieu, qui sera donc jugé pour la première fois en octobre prochain pour agression sexuelle sur deux femmes, jugées par un tribunal correctionnel. Les accusations visent le comportement de la star lors d'un tournage en 2021, celui du film Les Volets Verts. Au départ, trois femmes avaient déposé plainte. Leur avocate, maître Karine Durieux-Diebolt, traduit leurs sentiments aujourd'hui.
Soulagées, elles le seront lorsqu'il y aura une décision de justice qui sera intervenue. Pour l'instant, elles ont le sentiment d'avoir été entendues. Il y a eu une enquête qui a été menée suite à leur déposition, à leur déclaration. Donc, c'est ce qui s'est passé juste avant la confrontation d'hier, c'est-à-dire qu'il y a des témoins qui ont été entendus, il y a eu des expertises psychologiques et M. Depardieu a été convoqué et placé en garde à vue et il y a eu des confrontations. Et c'est à l'issue de cette enquête préliminaire que le procureur de la République a décidé qu'il avait suffisamment d'éléments pour le renvoyer en vue d'un procès devant le tribunal correctionnel en octobre. Donc pour l'instant, elles sont satisfaites.
Maître Karine Durieux-Diebolt, ce matin sur France Info, l'avocat de Gérard Depardieu, lui, n'a pas souhaité réagir. Mais dans une tribune publiée par le journal Le Figaro en octobre dernier, l'acteur affirmait n'avoir jamais, au grand jamais, abusé d'une femme. Fin de citation. On en vient donc à ces mesures proposées pour mieux protéger nos enfants des écrans. Depuis quelques années, les études se succèdent. Il est vrai parfois contradictoire. Alors Emmanuel Macron avait demandé il y a quelques mois à plusieurs experts de se mettre d'accord entre eux et de faire des préconisations. Ce rapport est remis cet après-midi. Il y est écrit ceci: l'hyperconnexion subie des enfants a des conséquences pour leur santé, leur développement et leur avenir. Bonjour Manon Derdevé.
Bonjour.
Nous verrons avec vous dans quelques minutes quelles sont les solutions qui existent pour empêcher les jeunes d'accéder à certaines applications. D'abord, arrêtons-nous sur la première recommandation de ce rapport: interdiction de l'usage des écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Pas de vidéo, pas de dessin animé. Bonjour William Delesseux.
Bonjour.
Vous êtes allé à la rencontre ce matin, William, de parents à la sortie d'une crèche.
Et oui, dans le 20e arrondissement de Paris, Mourad Medjaoui vient de déposer son fils Milan. Il aura 3 ans dans 2 semaines à la maison. Dessin animé autorisé le week-end uniquement, plutôt que de proscrire totalement les écrans.
C'est plutôt assez radical hein, comme mesure, je dirais. C'est pas du tout adapté. Pour le coup, on peut pas interdire à un enfant de regarder la télé. C'est aux parents, justement, de contrôler, on va dire, ce que les enfants regardent. Parfois, à certains moments, ça fait quand même du bien à l'enfant de regarder peut-être des dessins animés ou certains programmes.
Mourad estime que son fils passe une heure maximum par semaine devant les dessins animés. Pas question, en revanche, avant ses 3 ans pour James, le fils de Jessica Ambar-Vernier.
À la crèche, on a eu un atelier aussi pour nous expliquer les dangers des écrans. On nous a expliqué que c'était pas forcément bon pour développer le langage chez les tout-petits. Donc il faut arriver à mettre des limites et lui dire « Ah non, tu es trop petit ». Mais bon, dès qu'on trouve un autre petit jeu, il bascule facilement vers une autre activité. Hein. C'est pas si compliqué que ça.
Et sa mère nous l'a raconté, James est déjà très attiré par les smartphones, par la télévision. Sa sœur âgée de 5 ans a le droit au dessin animé quelques minutes par semaine. Une règle simple dans ce foyer, les parents attendent que leurs deux enfants soient couchés pour allumer leur télévision.
Merci William Delesseux. Alors on en est aux règles familiales, y aura-t-il des règles plus larges? Parmi les préconisations de ces experts, pas de téléphone portable avant 11 ans, un téléphone mais sans internet jusqu'à 13 ans et à partir de 13 ans un smartphone. Mais sans accès aux réseaux sociaux, j'entends d'ici déjà les protestations. Alors, comment contrôler? C'est l'autre question. Comment, par exemple, s'assurer que tous ceux qui accèdent aux sites pornographiques sont bien majeurs? Manon Derdevé, je reviens vers vous. Le problème, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui de solution technique 100% satisfaisante.
Oui, il existe plusieurs technologies hein, pour contrôler l'âge. Par exemple, en utilisant l'analyse faciale, l'utilisateur se filme avec sa caméra et une intelligence artificielle estime, en fonction des traits du visage, s'il est majeur ou non, avec une marge d'erreur de 2 ans. Un outil pas fiable à 100% donc. Autre possibilité, utiliser les données de la pièce d'identité. Un logiciel enregistre des informations dont la date de naissance et certifie ou non la majorité de l'utilisateur. Pour le ministère en charge du numérique, il y a une ligne rouge, garantir impérativement le double anonymat, c'est-à-dire transmettre une preuve de majorité, oui, mais sans divulguer l'identité de l'internaute, car ces outils ne sont pas sans risque, alerte la CNIL, le gendarme de la vie privée numérique. Elle s'inquiète de l'utilisation des données personnelles par ces logiciels, mais aussi du risque d'usurpation d'identité. Les auteurs du rapport rendu cet après-midi au chef de l'État reconnaissent qu'il existe des obstacles techniques dans ces technologies, mais ils assurent qu'une vérification de l'âge fiable reste possible et ils dénoncent un manque de volonté des plateformes de la mettre en œuvre.
Merci Manon Derdevé, on retrouve toutes ces informations sur le site d'Inter. Et puis ce soir, téléphone sonne spécial à partir de 19h20. Là encore, on est en plein dans la question des écrans, mais cette fois côté manipulation, voire arnaque. On a appris ce matin que la Commission européenne ouvrait une enquête contre le groupe américain Meta, coupable de plusieurs infractions au nouveau règlement européen sur les services numériques. Dans le viseur de Bruxelles, la désinformation de pays étrangers, mais aussi des publicités trompeuses qui pullulent. On vous retrouve Stéphane Jourdain. Stéphane, en quelques clics, vous avez ce matin retrouvé sur Facebook ou Instagram des tonnes d'arnaques commerciales. Elles utilisent toute l'image de personnalités célèbres, c'est ce qu'on appelle des deepfakes.
Et oui, en fait, il suffit de quelques secondes pour trouver sur Facebook et Instagram des centaines de vidéos en français qui sont en fait des arnaques en ligne, avec une recette, toujours la même. Des personnalités célèbres vous poussent à placer de l'argent sur des applis en ligne. Et la star française qui suscite le plus d'arnaques, c'est sans surprise le footballeur Kylian Mbappé. Vous allez voir, c'est assez bluffant, sa voix a été clonée grâce à une intelligence artificielle.
Tu as 20 euros sur ta carte ? Télécharge l'application avant le 31 mars et recharge ton solde. Je garantis que tu vas gagner.
Cette pub est encore en ligne sur Facebook et sur Instagram au moment où je vous parle.
Oui, c'est extrêmement bien fait, Stéphane. Il n'y a pas que le sport qui est utilisé.
Oui, les personnalités de la télé aussi. Exemple avec ce faux Michel Drucker qui vante les mérites d'un médicament qu'aurait mis au point un certain Didier Raoult.
L'épouse de Didier Raoult a réussi à se débarrasser de ses douleurs articulaires en moins de 4 semaines. Tout cela grâce au nouveau produit de Didier Raoult qui restaure les articulations dès le premier jour d'utilisation.
Et ces pubs trompeuses n'épargnent pas les politiques ?
Et non, voici un deepfake d'Emmanuel Macron qui vante les services d'une plateforme de Bitcoin.
Aujourd'hui, j'ai eu accès à la plateforme secrètement utilisée par les familles politiques françaises. La plateforme négocie automatiquement des bitcoins, ce qui signifie que vous gagnez de l'argent sans rien faire. Je n'arrivais pas à y croire, jusqu'à ce que je l'essaie moi-même.
Ces dernières semaines...
Un gros cheveu sur la langue quand même.
Mais oui, bon. Mais oui, c'est quand même crédible.
Ouais,
ces dernières semaines, une fausse vidéo avec un clonage de la voix d'Ursula von der Leyen, partagée sur Facebook encore, a beaucoup irrité la commission.
Merci Stéphane Jourdain. La commission qui donne 5 jours à Meta pour remédier à cette situation, sinon elle menace de lourdes amendes. Nous parlions des réseaux sociaux et des jeunes. Ils sont souvent mis en cause, ces réseaux, ces dernières semaines, dans les violences entre adolescents. On se souvient de l'agression de la jeune Samara, 13 ans à la sortie de son collège de Montpellier, c'était au début du mois. Sa mère avait alors dénoncé le harcèlement scolaire dont aurait été victime sa fille sans que le collège n'intervienne, selon elle. Et bien aujourd'hui, l'enquête administrative lancée par l'Éducation nationale a rendu ses conclusions. Elle estime qu'il n'y a pas eu de négligence de la part du collège. La ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé ce matin sur Inter.
Le collège, au vu des éléments qui étaient portés à sa connaissance, a fait tout ce qui était en sa possibilité de faire, c'est-à-dire qu'il y a eu un suivi de l'élève, elle a été entendue plusieurs fois par les équipes éducatives avant le drame qui s'est produit, et l'enquête administrative n'a pas relevé négligence. Mais en revanche, ce qui clairement a été relevé, et d'ailleurs juste simplement, il est très important que les chefs d'établissement des collèges où sont scolarisés les enfants agresseurs prennent les mesures disciplinaires d'exclusion sans doute qui s'imposent. Le deuxième point qui est relevé par l'enquête administrative, bien que nous n'ayons pas pu avoir accès au téléphone portable des élèves parce que ça relève de l'autorité judiciaire, c'est évidemment le fait que les réseaux sociaux et notamment ces fameux comptes Ficha sont sans doute à l'origine de ce qui s'est passé avec des images qui ont circulé, qui étaient considérées comme porteurs de mépris, de haine, etc.
Nicole Belloubet avec Nicolas Demorand et Yael Gauze, la ministre qui a aussi demandé aux responsables politiques de ne pas surréagir immédiatement après les manifestations de soutien d'étudiants à Gaza. CASA dans plusieurs universités du pays. L'école de Sciences Po Paris, par exemple, est restée bloquée quelques heures vendredi soir. Hier, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé suspendre les financements de la région à destination de cet établissement. Ce mouvement pro-palestinien dans les facs ne mobilise que quelques centaines d'étudiants dans notre pays, mais il est né aux États-Unis, où il est plus puissant, avec des blocages et des campements installés dans plusieurs universités du pays ces dernières semaines. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Sébastien, tout a commencé à l'université de Columbia, dans le centre de New York. De premières sanctions ont d'ailleurs été prononcées la nuit dernière. Mais les étudiants occupent désormais un bâtiment historique de l'université.
Oui, le bâtiment Hamilton, il est occupé depuis minuit hier soir ici. On ne sait pas combien ils sont à l'intérieur, mais les étudiants ont cassé une vitre avec un marteau. Ils sont entrés avant de bloquer les portes avec des tables et des chaises. L'opération a pris une vingtaine de minutes. Ils ont ensuite déployé des drapeaux palestiniens et puis une banderole Inns Hall aux fenêtres. Ils ont rebaptisé les lieux du nom d'une fillette de 6 ans qui est morte pendant la guerre à Gaza. La direction demande à la communauté universitaire de ne pas se rendre sur le campus aujourd'hui et elle a commencé à sanctionner les étudiants. En effet, suspensions administratives pour ceux qui n'ont pas respecté l'ultimatum expiré hier pour lever le campement. Il reste environ 80 tentes sur les 200 installées depuis 10 jours sur place. On ne partira que par la force, disent ceux qui sont retranchés dans le bâtiment Hamilton. Bâtiment qui a déjà été occupé plusieurs fois depuis les années 60. La première, c'était en avril 68, contre la guerre du Vietnam, évidemment. Les élèves de l'époque avaient retenu le doyen dans son bureau pendant une nuit et la police avait évacué les lieux une semaine plus tard en passant par des tunnels souterrains. Plus de 700 personnes avaient été arrêtées. Ça avait recommencé le mois suivant, mais les 250 étudiants n'étaient restés à l'intérieur qu'une dizaine d'heures cette fois.
Merci Sébastien Paour pour ces précisions en direct de Washington. Conséquence aussi de la guerre entre Israël et le Hamas sur la vie politique aux États-Unis, mais aussi en France, avec ses convocations ce matin dans les locaux de la police parisienne de deux responsables de la France insoumise. La chef du groupe à l'Assemblée, Mathilde Panot, et puis l'une des candidates aux élections européennes, Rima Hassan, toutes deux entendues dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. En cause notamment le communiqué publié par la France insoumise après le 7 octobre qui décrivait l'attaque terroriste comme, je cite, une offensive armée de forces palestiniennes. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Vous êtes sur place dans le 17e arrondissement de Paris. Un rassemblement de soutien était organisé ce matin.
Oui, plus d'une centaine de militants drapeaux palestiniens, LFI, mais aussi Génération.S, NPA et écologistes.
Sandrine Rousseau, merci à elle. Elsa Cotillon est avec nous ce matin. Olivier Besancenot, merci à lui.
La chef des députés insoumis, Mathilde Panot, au micro.
Vous participez à un abus de pouvoir intolérable dans ce pays, à une atteinte à la liberté d'expression et d'opinion. À ceux qui nous convoquent, j'accuse, vous dévoyez les moyens de l'antiterrorisme pour faire taire les voix de la paix et criminaliser les militants.
Au terme de 2 heures d'audition, la première Rima Hassan sort. Les enquêteurs lui ont confirmé que la plainte venait de l'OJE, l'Organisation juive européenne.
Je dénonce pas la manière dont, si vous voulez, notre système fonctionne. Je dénonce le fait que le gouvernement actuel ne fasse pas barrage à l'utilisation qui est faite de ces procédures par des organisations qui travaillent, encore une fois, pour les intérêts privés israéliens, dont les responsables risquent très prochainement d'être traînés devant les juridictions internationales.
C'est au parquet maintenant de décider d'éventuelles poursuites ou d'un classement sans suite.
Merci Laurence Perron avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. Il n'y a jamais eu autant de détenus en France, 77 450 au 1er avril, chiffre du ministère de la Justice. Ce matin, plus de 3300 détenus sont contraints de dormir sur un matelas au sol dans leur cellule. En un an, le nombre de détenus en France a progressé de 6%. Deux incendies mortels la nuit dernière à Paris. D'abord, 3 morts dans le feu d'un appartement sous les combles. 7e étage dans le 2e arrondissement, la piste d'une fuite de gaz est envisagé, et puis une victime également, une femme dans un incendie dans le 15e arrondissement.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
La semaine dernière à Vimereux, dans le Pas-de-Calais, ce sont 5 migrants qui sont morts en tentant la traversée vers le Royaume-Uni. En tout, sur cette seule semaine, 201 personnes ont été secourues et ramenées à terre. Alors, pour se préparer au mieux à ces sauvetages, les autorités françaises ont organisé hier un grand exercice au large de Calais, une préparation Alice Marot réalisée en conditions réelles.
Survolés par l'hélicoptère Dauphin, les bateaux de la Marine nationale et des sauveteurs en mer partent en urgence. Dans l'eau, une quinzaine de pompiers simulent les migrants victimes d'un naufrage. L'officier au Cross Green et Célia Monami dirigent l'exercice.
Concrètement, chaque personne va jouer le rôle qui est d'être inconsciente ou alors au contraire blessée au genou, femme enceinte, brûlée, hypothermie, etc.
Ces fausses victimes sont remontées à bord, soignées par des médecins et infirmiers des pompiers. Une collaboration indispensable pour le colonel Cédric Courtin du SDIS 62.
La prise en charge ne peut pas être qu'une prise en charge maritime. Il faut qu'il y ait derrière un minimum de gestes de secours qui soient effectués. On peut avoir des arrêts cardio-respiratoires à bord et ce genre de pathologie nécessite une prise en charge rapide.
Surtout que les opérations de secours de 10, 30, 60 exilés d'un coup sont courantes. Alors la clé, c'est la communication pour le patron du canot des sauveteurs en mer de Calais, Régis Soli.
Parce que c'est pas toujours évident. On travaille avec la radio, par exemple. On travaille tous sur la même fréquence. S'il y a quatre bateaux, il y a quatre bateaux qui parlent en même temps. Alors qui fait quoi ? Pour récupérer avant, pour soigner avant, faut se partager les tâches.
Avec toujours le même objectif, être le plus efficace possible lors du prochain sauvetage.
Reportage France Bleu Nord, ce type d'exercice est organisé environ tous les 4 mois. Le secteur du bâtiment, toujours à l'arrêt en France. Le nombre de permis de construire autorisés par mois a atteint le mois dernier son plus bas niveau depuis 2015 avec une baisse de 20%. C'est en Île-de-France et en Provence Alpes-Côte d'Azur que la chute est la plus forte. Ce sont les chiffres du ministère. Là, ce sont les chiffres d'avril et ils confirment le ralentissement de l'inflation dans notre pays. Les prix continuent d'augmenter, mais moins fortement. Plus 2,2% donc en avril par rapport à avril 2023. C'était près de 6% il y a un an. Augmenter encore la production ou la limiter? Là, on parle de la consommation de plastique dans le monde et les pays du monde ont bien du mal à se mettre d'accord. La troisième et avant-dernière session de négociations internationales pour parvenir à un traité contre cette pollution plastique. Cette session s'est achevée ce matin à Ottawa, au Canada. Et à nouveau, bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
On a assisté à un bras de fer entre d'un côté les pays dont l'Europe qui veulent baisser la production de plastique et de l'autre, des États comme la Chine qui disent qu'il n'en est pas question.
Oui, le Rwanda et le Pérou ont fait la proposition la plus ambitieuse, réduire de 40% la production de plastique d'ici 2040. Mais sans surprise, cette option n'a pas été retenue. La question du plafonnement de la production divise. D'un côté, 28 pays dont l'Europe sont d'accord pour fermer le robinet. La production a doublé en 20 ans, elle va tripler d'ici 2060. De l'autre, une coalition de pays, plus petits mais très actifs, met son veto à toute baisse de production. Chine, Inde, Arabie Saoudite et Russie, pour eux, le futur traité contre la pollution plastique ne doit porter que sur la fin du cycle de vie du plastique quand il devient un déchet. Ils misent sur le recyclage. Sauf qu'aujourd'hui, c'est bien le problème. Seuls 9% des déchets plastiques au monde sont recyclés. En Europe, c'est un tiers. Finalement, la déclaration la plus ambitieuse contre la pollution plastique ce matin, elle ne vient pas d'Ottawa où se déroulaient ces négociations, mais de Turin, en Italie, qui accueillait un G7 consacré à l'environnement. Le communiqué final vient d'être publié. France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Japon et États-Unis, un gros producteur de plastique, disent qu'ils aspirent à réduire la production de plastique mondiale.
Merci Sandy Dauphin. Vous parliez des 7 pays du G7 à l'instant. Ils s'accordent également pour fermer les centrales à charbon qui ne disposent pas de système de captage de CO2. Et cela d'ici 2035. Pour l'instant, c'est une technologie qui est très peu développé. Nous vous avons parlé hier des futures rames du TGV, le TGV-M attendu pour le second semestre 2025 entre Paris, Lyon et Marseille. Ce sera un train ultra moderne. Et bien cette présentation d'hier ne passe pas du tout dans les régions qui souffrent depuis longtemps de problèmes de desserte en train. C'est le cas de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse qui accumule les galères. Dernière en date, l'annonce d'un retard de livraison pour les nouvelles rames. Elles étaient prévues pour 2023, ce sera entre 2026 et 2027. Nathalie Coll, ça commence à faire beaucoup pour les voyageurs que vous avez rencontrés en gare de Limoges.
Avec près d'une heure de retard causé par une panne sur un autre train, Dominique et Luc embarquent dépités dans leur wagon pour Paris.
C'est dans un état lamentable maintenant, c'est un peu triste.
C'est très ancien, pas confortable et le wifi est de très mauvaise qualité. C'est hors du temps, c'est pas digne de 2024, c'est des rames qui ont 50 ans de retard.
50 ans, c'est d'ailleurs quasiment l'âge de ces rames qui devront malgré tout tenir encore 2 ou 3 ans. Inadmissible pour l'association Urgence Polt. Elle demande donc des rames de TGV pour compenser en attendant. tout comme Loïc Couder, secrétaire général de la CGT Cheminots à Limoges. Et selon lui, si on sait où chercher, on peut facilement en trouver.
Nous, on prend l'exemple de l'Espagne où la SNCF s'est implantée pour faire la concurrence au marché espagnol. On pourrait très bien envisager que ces rames ne soient plus utilisées en Espagne et qu'elles reviennent sur le marché français. Et la réponse de la SNCF est claire, c'est que le marché est libéralisé et qu'il faut s'implanter dans les autres pays, au détriment des territoires, évidemment.
Et de ses habitants, comme Anne, qui a vraiment du mal à digérer cette situation.
La ligne se dégrade, mais les prix augmentent. C'est paradoxal. Si effectivement on ne paye pas trop cher, on peut attendre, comprendre. Mais si on paye aussi cher, c'est pas normal.
L'association Urgence Polt réclame d'ailleurs des billets moitié prix jusqu'à l'arrivée des nouvelles rames.
Reportage France Bleu Limousin. L'Allemagne est décidément le pays du football en ce printemps avant d'accueillir l'Euro. Dans quelques semaines, les deux premières demi-finales de la Ligue des champions de football vont s'y disputer ce soir et demain. Demain, ce sera le Paris Saint-Germain dans la Ruhr à Dortmund. On aura l'occasion d'en reparler avec vous, Sébastien Baer, en direct de Berlin. Mais d'abord, aujourd'hui, vous nous parlez d'un autre Français qui est lui aussi en Allemagne. C'est Clément Turpin, arbitre ce soir de la première demi-finale de cette Ligue des champions. Bayern Munich, Real Madrid. On se demande comment il va faire, Sébastien, pour arbitrer sereinement, car un homme lui met la pression depuis quelques heures.
Oui, c'est Thomas Tuchel, parce que le Français de 41 ans était déjà au sifflet il y a un an, c'était presque un an jour pour jour, pour arbitrer le Bayern face à Manchester City. Match de quart de finale, retour de la Ligue des Champions, avec un scénario bien compliqué pour les Allemands. Un but refusé pour hors-jeu, un pénalty jugé imaginaire pour les Citizens et 6 cartons contre les joueurs du Bayern. Les choix de Clément Turpin avaient provoqué la colère de Thomas Tuchel, qui avait explosé sur son banc de touche, ce qui lui a valu 2 cartons jaunes, si bien que l'entraîneur a dû suivre la fin de la rencontre depuis les tribunes. Dès ses premiers mots en conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel s'était interrogé sur la neutralité de l'arbitrage.
Il y a 2 choses qui n'ont pas aidé à maintenir le niveau de la rencontre. C'est le terrain et malheureusement l'arbitre. Je lui donne la note de 1 sur 10 et je m'interroge sur les raisons du pénalty. Si on veut prétendre battre la meilleure équipe du moment, il ne faut pas seulement jouer à 100%, mais aussi que certaines petites décisions nous soient parfois favorables. Sinon, cela peut expliquer un résultat au final qui n'est pas justifié.
Le Bayern avait fait match nul, 1-1 contre Manchester City, insuffisant pour inverser la tendance après la défaite 3-0 du match aller face au futur vainqueur de la Ligue des Champions. Il n'aura pas échappé non plus à Thomas Tuchel que la présence sur le terrain de Clément Turpin semble bien porter chance au Real Madrid. Le Français a arbitré les Espagnols à 6 reprises et Madrid l'a emporté à chaque fois.
Oui, forcément ça inquiète en Allemagne. Merci Sébastien Baer pour ses précisions avant ce match. Et puis c'est l'une des images de la journée, elle nous vient de Londres où le roi Charles III a effectué ce matin sa première sortie publique 3 mois après l'annonce de son cancer. Il s'est rendu précisément dans un centre de traitement du cancer dans la capitale en compagnie de la reine Camilla. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis nous parlons des jeux d'argent en France. Encore un chiffre d'affaires record l'an dernier, plus de 13 milliards d'euros. L'autorité nationale des jeux veut réduire le nombre de joueurs excessifs. Si c'est votre cas ou si c'est le cas de l'un de vos proches, vous nous appelez 01 45 24 7000. Venez nous dire pourquoi vous jouez. La présidente de l'ANJ est notre invitée. 13h45, notre feuilleton. Nous découvrons cette semaine comment se déroule un voyage présidentiel. Nous sommes dans les coulisses. 13h50, Cyril Petit et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme.
Cyril, pour C'est la France, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Je viens de Bévard dans le Maine-et-Loire à Godswarsveld dans le Nord. En passant par Jouarre en Seine-Maritime, on s'intéressera aux retraites spirituelles qui attirent de plus en plus et pas seulement des croyants.
Attire et inquiète aussi parfois. Et avec vous, Frédéric, un chanteur et guitariste.
Il est chanteur, il est guitariste. Et si je vous dis éteins la lumière, Jérôme, montre-moi ton côté sombre, vous me répondez.
Axel Bauer,
dans C'est une chanson qui nous parlera d'une chanson que Bob Dylan considérait comme la plus belle chanson du monde. C'est quoi cette chanson ? La réponse tout à l'heure.
Quel suspense. Merci à tous les deux.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ? Prise de poids rapide ? Pieds et chevilles gonflés ? Fatigue excessive ? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie ?
LCL présente Angle 9, la filiale immobilière de LCL.
Devine où j'ai trouvé mon appart.
Bah, une agence immobilière, une petite annonce.
Eh non, en allant voir mon conseiller LCL. Avec Angle 9, LCL propose aussi de l'immobilier.
Avec Angle 9, la filiale immobilière de LCL, il est possible de trouver votre appart et son financement au même endroit. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. LCL est élu service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur escda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Pas moins de deux perturbations aujourd'hui.
Oui, on a toujours la même de l'Occitanie et de la vallée du Rhône vers le nord de la Seine avec des pluies irrégulières, plus copieuses quand même vers le Languedoc. Des orages peuvent éclater dans l'après-midi sur le massif central et remontent vers le centre-Val de Loire, puis le bassin parisien et le Hauts-de-France. Des averses orageuses aussi sur la Bourgogne et les Ardennes pour la soirée. On a une autre perturbation qui concerne la Bretagne avec des pluies parfois soutenues, un vent de sud également. Et puis de la Nouvelle-Aquitaine vers la Touraine, la Basse-Normandie, c'est bien ensoleillé. Sur le nord-est, de belles éclaircies aussi, très belles même vers la Lorraine et l'Alsace. En revanche, à l'est du Rhône, pas mal de nuages, parfois une averse, de la pluie sur les Alpes. Les températures sont en hausse, comptées souvent 17 à 22 degrés, seulement 13 degrés quand même sur la pointe bretonne sous la pluie, mais 22 à 26 sur le flanc est. Et puis demain, il va faire bien plus frais sur l'ouest et le sud, et il faudra composer avec des pluies ou des averses. Un 1er mai bien agité.
Rafraîchissement en vue. Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Isabelle Falque-Pierrotin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14 sur France Inter. Vous êtes la présidente de l'Autorité Nationale des Jeux, l'ANJ. C'est l'autorité administrative qui régule, encadre, contrôle les jeux en ligne et en point de vente, d'ailleurs en France. On va parler de ces contrôles, mais aussi de la hausse du chiffre d'affaires du secteur, plus 3,5% l'an dernier. J'attends pour cela les questions des auditeurs de France Inter, 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application France Inter. Isabelle Falque-Pierrotin, 13 milliards 400 millions d'euros de PBJ l'an dernier. C'est le produit brut des jeux. C'est quoi le PBJ?
C'est l'équivalent du chiffre d'affaires des opérateurs. C'est en fait les mises moins les gains.
D'accord.
Donc c'est l'indicateur de référence pour
l'argent qui est misé moins l'argent qui est redistribué. Voilà.
Donc en réalité, c'est les pertes nettes des parieurs.
C'est ça. Ça veut dire que les Français l'an dernier ont perdu plus de 13 milliards d'euros en jouant.
C'est ça que ça veut dire.
C'est ça que ça veut dire. On le dit tous les ans, ça.
Alors on le dit tous les ans.
13 milliards, mais c'est tous les ans plusieurs milliards.
Et tous les ans, c'est beaucoup d'argent. Et effectivement, si vous prenez un autre indicateur qui est peut-être plus intéressant, qui est celui des mises. Donc les mises, c'est 55 milliards. Donc ça veut dire que c'est un marché qui est un marché très important, qui par ailleurs est en croissance depuis maintenant plusieurs années. Et cette année, pour la première fois, il est en croissance sur tous les segments, sur toutes les activités de Paris.
On va rentrer dans le détail, mais on dit tous les ans, donc là, 13 milliards d'euros perdus par les joueurs, ça ne va pas empêcher les Français, peut-être l'année 2024 sera-t-elle record, on en parlera aussi. Comment est-ce que vous l'expliquez? Pourquoi quand on dit, globalement, vous perdez de l'argent, 13 milliards d'euros, mais les joueurs sont là et misent de plus en plus?
Alors, ça dépend des types de paris, mais en règle générale, les gens achètent du divertissement, du rêve. Lorsque vous jouez au loto, vous achetez la possibilité peut-être de gagner le gros lot.
Ce qui est vrai pour un nombre très limité de personnes.
Bien sûr, mais c'est ça qui vous motive. En matière de paris sportifs, vous espérez, vous pensez que votre expertise en matière de jeu de football, par exemple, va vous donner plus de chances de gagner contre l'opérateur. Donc en fait, il y a des motivations, je dirais, diverses selon les types de paris. Le pari hippique, c'est un pari de spécialiste, un pari d'expertise. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'en tout cas, le pari gagne et qu'il concerne maintenant la plupart des Français, 26 millions de Français qui jouent.
Plus d'hommes que de femmes?
Plus d'hommes que de femmes.
Plus d'hommes que de femmes, toujours.
Plus d'hommes que de femmes. Je dirais que, oui, il y a une majorité d'hommes qui jouent. Et le pari qui est finalement le plus féminin, c'est le pari hippique.
C'est là qu'on trouve le plus de spécialistes des courses hippiques.
Alors, de spécialistes, je ne sais pas,
non, mais
de
femmes
qui jouent.
De...
Il est plus féminin, entre guillemets, en pourcentage, même si les femmes restent minoritaires. Et il est plus féminin. Et puis
par
le
grattage.
Par rapport
au poker ou par rapport au jeu de grattage.
Voilà, le grattage est aussi un peu plus féminin que le pari sportif, par exemple.
Les deux dernières années, 2022 et 2023, ont été marquées par une forte inflation en France. On aurait pu se dire que l'inflation allait limiter. Peut-être on a moins d'argent à disposition, donc on va moins jouer. Ou bien est-ce qu'au contraire, j'ai moins d'argent pour vivre ? Eh bien, je vais jouer davantage pour me refaire, en quelque sorte. Quelle a été la logique à l'œuvre, selon vous ?
Alors, la logique à l'œuvre, c'est le pari va me permettre de regagner du pouvoir d'achat. On a mené une étude qui montrait que pour un tiers des Français, le pari sur le loto, enfin sur les jeux de tirage ou de grattage ou le pari sportif, était un moyen de compenser une baisse du pouvoir d'achat. Et ça, devant les heures supplémentaires, le fait de lancer une petite entreprise, de faire des petits boulots, etc. Donc,
les Français pensent plus qu'ils vont gagner de l'argent en jouant qu'en travaillant davantage.
Oui, il s'est installé progressivement dans la tête des personnes l'idée qu'on ne joue pas simplement pour son plaisir, pour son divertissement, mais on joue aussi pour vraiment gagner de l'argent, ce qui évidemment est une illusion.
Oui, on a rappelé le chiffre au début de cette interview. À l'ANJ, votre travail, c'est de réguler, d'encadrer, de contrôler cette activité de jeux en ligne, points de vente, paris sportifs. Parlons des risques. Ça fait des dégâts, le jeu, dans notre pays, au-delà des pertes d'argent, juste voilà, j'ai moins d'argent à la fin du mois.
Alors, il y a effectivement des risques qui sont des risques plurifactoriels, on va dire, lorsque l'on joue, même s'il y a des tas de gens qui jouent de façon récréative sans risque. Mais on considère que pour un joueur excessif, un joueur véritablement excessif, c'est-à-dire qui commence à développer un comportement pathologique, c'est-à-dire un comportement dans lequel il ne peut plus se passer de jouer, il ne pense qu'à jouer, il pense à se refaire dès qu'il a des pertes, il a commencé à emprunter de l'argent auprès de sa famille pour continuer à jouer. Ça, ce sont des indicateurs de jeu excessif. Eh bien, lorsqu'il y a un joueur excessif, il y a 6 personnes qui sont impactées. Elles sont impactées parce que il y a des troubles familiaux.
C'est proche.
C'est les proches. Ça peut être des troubles à l'école. Donc c'est des difficultés scolaires. C'est des difficultés financières avec un surendettement possible. Donc si vous voulez, il y a toute une série de risques qui se déclenchent lorsque du jeu récréatif, on passe au jeu excessif.
Vous savez dire combien il y a de joueurs excessifs en France ? Vous savez l'estimer ?
Alors, on a une étude qui date de 2019 qui dit il y a 1,4 million de joueurs problématiques, dont 400 000 joueurs excessifs. Donc ça date de 2019.
Quelle différence vous faites entre le joueur problématique et le joueur excessif ? Alors, vous avez employé les deux expressions, il y a 1 million de personnes d'écart.
Il y a 1 million de joueurs problématiques, ouais, et 400 000 d'excessifs. Ouais, l'excessif, c'est celui qui relève, entre guillemets, de la pathologie, du suivi par une consultation d'addiction, enfin qui a vraiment besoin d'être traité. Le joueur problématique, c'est celui qui est en risque de déraper. La question est de savoir, aujourd'hui, est-ce qu'on est encore à 1,4 million ou 400 000 joueurs excessifs, ou plus. Et nous avons des indicateurs qui nous font penser que le pourcentage de joueurs excessifs est probablement en train d'augmenter. Nous gérons, par exemple, le fichier des interdits volontaires de jeu. Lorsque vous considérez que vous avez des troubles, vous pouvez demander à l'ANJ de vous auto-interdire, c'est-à-dire vous ne pouvez plus jouer en ligne et dans les casinos.
D'accord, ça vaut en ligne et pour les casinos.
Ça vaut dans tout ce qui est jeu, comment dire, identifié.
Ouais. Et comment est-ce qu'il évolue ?
Eh bien, ce que nous voyons, c'est que ce fichier a considérablement gonflé dans les dernières années. Aujourd'hui, il y a 70 000 personnes dans ce fichier et nous avons une augmentation des demandes émanant de jeunes joueurs. Donc nous pensons...
Qui viennent vous dire « empêchez-moi de jouer ».
Absolument. Donc, il y a un certain nombre d'indices qui nous font penser que le pourcentage des joueurs excessifs est probablement en train d'augmenter et pas de décroître. Ce qui a poussé l'ANJ, d'ailleurs, dans ses objectifs stratégiques pour, à partir de 2024, de dire aux opérateurs, c'est un objectif majeur pour vous que de réduire la part des joueurs excessifs dans votre modèle économique.
Ils n'y ont pas intérêt.
Ils n'y ont pas intérêt, bien sûr
PMU,
que non.
Je suis la Française des Jeux, j'ai plutôt envie d'avoir plus de joueurs que moins de joueurs.
Alors, plus de joueurs, mais pas nécessairement plus de joueurs excessifs. Donc, si vous voulez, ce que nous essayons de faire à l'ANJ, c'est de faire baisser le pourcentage des joueurs excessifs dans le PBJ. Aujourd'hui, on considère que le chiffre d'affaires des opérateurs est alimenté à peu près à 20%
c'est ça.
Par des joueurs excessifs.
Vous écrivez dans votre compte-rendu d'activité pour l'année dernière, au total, le jeu problématique génère plus de 38% du chiffre d'affaires du secteur. C'est considérable.
C'est 38% pour le joueur.
Et 21% pour les seuls joueurs excessifs. moi, je me pose la question suivante. Si j'enlève tous les joueurs problématiques et tous les joueurs excessifs, est-ce que les opérateurs, FDJ, PMU, ils continuent de gagner de l'argent?
Alors, on n'a rien demandé sur les joueurs problématiques. On leur a demandé de baisser dans leur base client le pourcentage de joueurs excessifs, parce que là, encore une fois, ce sont des joueurs qui relèvent, entre guillemets, d'un traitement, psychiatrique ou médicamenteux. Et donc, on leur a demandé de faire baisser ce pourcentage.
Mais sans ces 21%, est-ce que ces opérateurs gagnent de l'argent? Alors, ou bien est-ce que ce sont les joueurs excessifs qui permettent à ces opérateurs de gagner de l'argent au fond?
C'est probablement un changement de modèle économique qu'on leur demande. C'est pour ça qu'il va falloir, je dirais, le décliner dans la durée. Hein, c'est pas un objectif qu'on leur demande sur une année. On leur demande sur un plan stratégique qui s'étale pendant 3 ans. Et ça veut dire que concrètement, il faut désintensifier la base client. C'est-à-dire, en fait, avoir peut-être un peu plus de joueurs, mais moins excessifs.
Quel est leur intérêt à le faire?
Leur intérêt, c'est le chiffre d'affaires global. Si, à travers cette évolution du modèle économique, ils gardent le même chiffre d'affaires, je pense qu'ils y ont intérêt, parce qu'en plus, ils répondent à un intérêt, à une préoccupation croissante du public, qui est une crainte sur cette addition. Il y a de plus en plus, l'opinion publique est de plus en plus mobilisée sur cette crainte autour de l'addiction aux écrans, autour de l'addiction au numérique. Et quelque part, le pari sportif ou le pari en ligne participe, entre guillemets, de cette crainte. Donc je crois que si on peut les pousser à avoir un modèle économique équilibré un tout petit peu différemment, c'est aussi l'intérêt des opérateurs.
Il y a un coût à tout cela. Alors 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le secteur, ça c'est ce qu'il engrange, mais il y a un coût pour la société. Quand on parle surendettement, problèmes familiaux, difficultés scolaires, ça c'est la collectivité qui paye.
Bien sûr, c'est pour ça.
Comment est-ce qu'il est taxé d'ailleurs ce
Alors,
secteur?
Alors la collectivité, entre guillemets, récupère quelque chose à travers la taxation. Elle est importante en France, puisque en gros, les pouvoirs publics récupère à peu près 5,5 milliards d'euros par an sur l'activité de jeux d'argent.
Si je mise 10 euros par exemple sur un match de Ligue 1, vous savez combien il y a d'argent qui part dans...
Alors,
en
je ne voudrais
taxes.
Pas vous dire une bêtise, mais je sur un chiffre d'affaires de 13,4 milliards, ouais. En gros, il y a 5,5 milliards qui reviennent à l'État.
D'accord, donc sur les 13 milliards, on enlève 5 milliards voilà. Qui partent à l'État. Ok, et qui donc servent ou pas, donc, ça dépend des choix politiques à...
Voilà, donc, mais en tout cas, je dirais ce que je... essayaient de dire, oui. C'est que leur changement de modèle économique est effectivement un effort qu'on leur demande, mais c'est plus un investissement. On leur dit, il faut que vous fassiez pivoter votre modèle économique pour être moins dépendant des joueurs excessifs, parce que finalement, les risques liés à ce modèle, liés aux joueurs excessifs, sont en train de monter, parce que l'opinion publique se mobilise, parce qu'on commence à se préoccuper des conditions dans lesquelles les oui. jeunes jouent, puisqu'on a de plus en plus de jeunes dont on s'aperçoit qu'ils jouent, alors qu'en réalité, normalement, c'est interdit. Donc, si vous voulez, tout ça fait un environnement qui n'est pas stable. Et donc, c'est peut-être aussi leur intérêt que de répondre à ces préoccupations.
Des questions au standard de France Inter et également via l'application. Je voudrais qu'on donne la parole à Bruno. Bonjour, Bruno.
Bonjour.
Vous nous appelez du département du Morbihan. Vous avez une question sur la pub.
Oui, alors deux questions. La première, c'est effectivement, sachant que le jeu est dans la nature humaine, bon, pourquoi pas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas déjà interdire la publicité, qui profite bien à nos gloires nationales dans le sport, hein. Et ça, c'est un premier temps. Et dans un deuxième temps, on a privatisé, il y a, je crois, une douzaine d'années, ou 14 ans à peu près, la Française des Jeux. Ça a bénéficié à certains hommes politiques, ce qu'a démontré France 2 dans un reportage récemment. Ne pourrait-on pas revenir au monopole d'État, hein, tant qu'à faire, puisque je ne compte pas trop sur le privé pour s'auto-réguler et gérer les jeux, c'est un peu comme l'alcoolisme, c'est les alcooliques qui profitent finalement au marché du vin, et bien le jeu profite beaucoup des gens les plus faibles et qui sont addicts.
Merci Bruno pour cette double question. Sur la pub, Isabelle Falk-Pierrotin, va y avoir l'Euro de foot, on va avoir plein de publicités pour les paris.
Absolument. Bonjour Bruno, merci de cette question sur la publicité. C'est effectivement un levier d'action très intéressant pour nous. Alors, on va avoir une année sportive extrêmement attirante.
Et les Jeux Olympiques
les Jeux
Olympiques
vont
et Paralympiques
se développer. Y a des pays qui ont décidé de bannir la publicité. L'Italie. En fait, on s'aperçoit que la réponse, le bannissement, l'interdiction totale de publicité est probablement pas si efficace que cela, parce que elle conduit surtout à développer l'offre illégale, qui en fait, l'offre légale ne pouvant plus avoir les moyens d'assurer sa promotion. Donc le bannissement total, nous sommes un peu réservés. En revanche, Il est clair que les investissements publicitaires ont continué d'augmenter dans les dernières années, mais à droit constant, c'est-à-dire sans rien changer au cadre juridique, on ne pourra pas faire tellement plus que d'attirer la responsabilité des opérateurs. En revanche, il y a des pays qui font des choses intéressantes, qui interdisent par exemple la pub avant match, pendant le match et après match, 5 minutes, le whistle-to-whistle ban. Il y a des pays qui interdisent la publicité numérique, c'est-à-dire personnalisée, qui ne laisse que la publicité, je dirais, très générale à la télévision. Donc, on a des moyens, effectivement, si on le souhaitait, de mieux limiter la publicité.
Je voudrais votre réponse sur la privatisation, parce que Elisabeth et Marie-Laurence posent aussi la même question. Est-ce qu'un acteur privé va avoir moins intérêt à réguler qu'un acteur public ?
Je crois qu'aujourd'hui, on a un secteur qui est composé de deux monopoles et d'opérateurs en concurrence. Les opérateurs en concurrence sont soumis à des obligations également en matière de lutte contre l'addiction. Le problème de la FDJ, c'est que c'est le mastodonte du secteur. C'est-à-dire plus de la moitié du chiffre d'affaires. Effectivement, une position de monopole qui lui permet d'avoir une sorte de marque référence et une stratégie de croissance tout azimut à travers des acquisitions récentes. Donc, la crainte que nous avons, c'est que cette position de plus en plus forte de la FDJ suscite de la part des autres opérateurs des actions de défense qui conduisent à surstimuler le joueur.
Et donc une concurrence en fait qui s'instaure. Merci à vous Isabelle Falk-Pierrotin d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14, présidente de l'Autorité Nationale des Jeux. 13h45 sur Inter. Notre feuilleton. Comment se prépare et se déroule un voyage officiel du président de la République ? C'est Maxence Lambrecq qui, cette semaine, nous emmène en coulisses. Aujourd'hui, voyons comment travaillent les journalistes accrédités pour un tel voyage. Tous ne peuvent pas suivre le président en permanence. On va voir ça. Et puis, il y a tous les échanges hors micro, en off, comme on dit. Direction le Brésil pour retrouver Maxence.
Alors là, c'est le moment du off avec un des conseillers diplomatiques d'Emmanuel Macron. Il se dirige juste à côté du baby-foot au lycée français de São Paulo pour un petit quart d'heure, 20 minutes de débrief. Qu'est-ce que les deux présidents se sont dit ? Quels sont les sujets de tension ? On prend évidemment tout ça avec précaution. C'est une partie de l'histoire qu'on nous raconte. C'est ce qu'on veut aussi mettre en valeur.
On essaie de casser un jeu de rôle qui est trop facile. La fragmentation du monde n'est pas inéluctable. Les diplomates français ne parlent donc que de sensibilités différentes et ne retiendront de cette journée que les points de convergence, le bain de soleil plutôt que la salle climatisée.
Maxence Lambrecq depuis le Brésil.
Bon, faut avouer que sur un déplacement comme ça, on manque souvent de sources. Il y a 2, 3, 4 moments informels comme celui-ci. Après, on en cherche d'autres par téléphone, mais on peut pas vraiment s'extraire de la caravane. Et puis, il y a même des moments où on voit pas Emmanuel Macron, parce que c'est sur le papier un peu trop compliqué de tous nous emmener. Et alors là, il y a un système de pool de journalistes, et je vais aller en parler avec mes petits camarades de la radio.
On a 3 poules là sur ce VO, et donc on est 4 rédacteurs radio, donc il y en aura un qui aura rien du tout. Donc c'est RFI, RTL, France Info et France Inter. Et pour se départager, on a choisi quoi comme méthode ?
Alors, comme on fait d'habitude, ploufplouf.fr, c'est un tirage au sort aléatoire, quoi.
Ok, on rentre les 4 noms des radios et on va voir qui remporte ce premier pool. C'est parti.
Tiré au sort.
Ah, c'est RFI qui a gagné. C'est toi, Valérie, qui a gagné.
Ouais, je suis la championne du jour, mais je te rassure, Maxence, ça ne m'arrive pas à chaque fois. Je me demande d'ailleurs si ce jeu n'est pas truqué.
Cette fois-ci, donc, c'est Valérie qui va m'envoyer les sons, qui va essayer de me transmettre toutes les infos dans une boucle WhatsApp, c'est ça ?
Exactement, le plus vite possible pour que tout le monde profite du fait que quelqu'un seul est avec Emmanuel Macron sur une séquence d'un VO.
Sur ce coup-ci, c'est moi qui ai perdu, puisqu'il y avait 3 poules et 4 journalistes radio, et donc j'ai aucun des poules. Il en a un qui va se balader dans la forêt, c'est toi Paul ?
Ouais, à Camopi, ouais. Tout au sud de la Guyane. Mais promis aussi, je t'enverrai des photos. Hein.
Toi Thomas, t'as gagné le sous-marin ?
Moi je vais sur le lancement d'un sous-marin qui a été construit au Brésil avec des technologies françaises.
Je me trouve à Sao Paulo dans l'hôtel pendant que près de Rio de Janeiro, un sous-marin franco-brésilien est inauguré, mis à l'eau. Et donc,
Je vais récupérer, je vais appeler Thomas, qui est de Pool Radio pour nous, pour lui demander les extraits des discours, la Marseillaise, etc., et pouvoir ensuite faire un reportage à l'antenne de France Inter.
La lune de miel se poursuit au Brésil.
Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir Kevin.
Deux dirigeants ont mis à l'eau aujourd'hui un sous-marin franco-brésilien, symbole de la réconciliation entre les deux pays.
Oui, comme s'il rattrapait le temps perdu, assis sur scène pendant que des militaires défilent et palabrent à la tribune, les deux présidents n'arrêtent pas de discuter. Lula cherche à obtenir l'aide de la France pour construire un sous-marin à propulsion nucléaire, technologie précieuse, sensible. Emmanuel Macron ne ferme pas les écoutilles.
Je souhaite que nous ouvrions le chapitre de nouveaux sous-marins.
Une bouteille de champagne se fracasse alors sur la coque du sous-marin Tonelero. C'est dommage, s'amuse Lula, on aurait pu la boire ensemble.
Un plouf-plouf pour aller voir le sous-marin, vous me direz, c'est assez logique. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50, le mardi. Cyril Petit du journal Ouest-France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, vous nous parlez de ces retraites spirituelles qui se multiplient.
Et je vous emmène, Jérôme, à Bévard dans le Maine-et-Loire. Ce village de 120 habitants compte une guinguette, une chapelle et un ancien orphelinat transformé dans les années 60 en logement pour prêtres. Alors, le bâtiment a failli être reconverti en hôtel de luxe, mais finalement, la maison du sanctuaire, c'est son nom, est devenue un lieu de retraite spirituelle. En un an, la fréquentation a augmenté de 50% et la clientèle rajeunit. Les gens ont besoin de couper d'un monde où tout va trop vite, indique à Ouest-France le recteur Bertrand Chevalier. Il y a pour certains une envie de sortir du virtuel, de l'hyperconnexion, de se reconnecter à la nature, à l'essentiel. Ces retraites qui ont toujours existé répondent aujourd'hui aux besoins d'une époque, dit-il.
Et cet exemple, Cyril, reflète une tendance de fond.
Elle va de pair avec celle du développement personnel, précise à la Croix la sociologue des religions Isabelle Jonvaux. Il y a un véritable public en recherche de soi. Alors, Augustin Marbaché me le confirme, il travaille chez Retreat. Retreat, c'est un genre de Airbnb, mais associatif et spécialisé dans les abbayes, monastères et autres couvents qui accueillent les visiteurs pour des retraites spirituelles. Le phénomène a explosé depuis le confinement, me dit-il. En 2021, Retreat avait reçu 2400 demandes d'hébergement. En 2023, 51 000 et déjà plus de 22 000 depuis le début de 2024. Alors le site propose 130 lieux en France, de Godvarsveld dans le nord à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, en passant par Nevers dans la Nièvre. Le confort est simple et chaque hôte paye ce qu'il veut ou ce qu'il peut, mais pour une nuit et trois repas, comptez environ 35 euros, repos et méditation compris, avec bibliothèque, avec vue, avec bière d'abbaye, à la mer, seul ou en famille. Différents critères permettent de faire son choix, mais ce qui est le plus recherché, c'est le silence, confie Augustin Marbaché.
Ouais, c'est un peu à la carte. Tout de même, Cyril, est-ce qu'il faut pas y voir quand même une forme de prosélytisme?
Eh bien, le salarié de Retreat s'en défend, me dit-il. Tout le monde est accueilli. On ne demande pas de certificat de baptême. Les hôtes sont invités à participer à une prière par jour, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, de plus en plus de personnes non pratiquantes ou athées font ces retraites, nous dit-on. Il y a des étudiants qui préparent leurs examens, des salariés proches du burn-out, dont certains demandent à ce que l'on prenne leur téléphone à l'arrivée, ou encore des amoureux, à l'image de ce couple marié depuis 30 ans qui s'est retiré 5 jours à l'abbaye de Jouarre en Seine-et-Marne et qui a confié aux Parisiens, on est parti pour se retrouver à deux, loin du tumulte de la vie quotidienne.
Alors ce phénomène a tellement de succès qu'il a inspiré un programme récent de télé-réalité qui a provoqué un regain d'intérêt pour ses retraites, mais aussi des critiques.
Oui Jérôme, l'émission Bienvenue au monastère, diffusée en janvier sur C8, a engendré une hausse des réservations. Le principe, 6 personnalités étaient filmées durant une semaine au couvent de Corbara en Corse. Mais les deux guides spirituels choisis appartiennent à deux communautés catholiques mises en cause par le passé pour des dérives sectaires et des violences sexuelles, a dévoilé Libération. Sur le réseau X, un collectif de victimes a décortiqué ce qu'il analyse comme des mécanismes de l'emprise spirituelle. Alors, certes, l'engouement pour les retraites date d'avant, Bienvenue au monastère, et il ne se dément pas 3 mois après, mais on regrette que Retreat, sur son site, évoque largement le programme sans mentionner ses faits. Alors, au-delà de cette émission, on nous précise cependant que pour chaque lieu référencé, la communauté d'accueil est décrite, que des endroits ont déjà été retirés de l'offre et que les hôtes sont invités à faire remonter les problèmes. Augustin Marbaché précise qu'il n'y a pas eu de signalement jusque-là.
Merci d'avoir décrypté ce phénomène, Cyril Petit, aujourd'hui dans C'est la France. De C'est la France, ça, c'est une chanson. C'est le chanteur et guitariste Axel Bauer que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Axel Bauer qui fête cette année un anniversaire, mais oui, les 40 ans de
déjà.
40 Cargo, son premier tube Cargo de nuit, 35 jours sans voir la terre, pull rayé, mal rasé. On
Comme
vient
vous.
De débarquer. Vous êtes bien rasé, vous. C'est vrai. Et la chanson dont il a choisi de me parler, Axel Bauer, est une chanson qu'il a découverte assez récemment, il y a un an à peu près.
J'écoute un podcast de temps en temps qui s'appelle The Rock Hunters, qui est fait par Guy Pratt et Gary Kempt, respectivement bassistes de Roxy Music, et l'autre joue avec Pink Floyd, et ils sont entrepris de faire un podcast où ils interviewent des tas de gens. Et ils ont notamment interviewé une femme qui s'appelle Diane Warren. Et Diane Warren, qui est une compositrice anglaise, et cette femme qui a quand même un savoir-faire incroyable, on lui pose la question, on lui dit « Quelle est la plus belle chanson du monde, selon vous ?» Et elle répond « Wichita Lineman, sans aucun doute. » Alors, vous êtes là, interloqué, vous dites « Pourquoi je ne connais pas Wichita Lineman ? Qu'est-ce qui se passe ?» Vous vous jetez sur votre ordinateur, vous googlez Wichita Lineman et vous apprenez d'abord que c'est une chanson de Jimmy Webb et vous voyez la version originale chantée par Glen Campbell, qui était un guitariste, chanteur, comme moi. Et là, vous creusez encore plus sur Google et vous tombez sur une interview de Bob Dylan qui dit « Wichita Lineman est la plus belle chanson du monde ». Et en même temps, vous êtes touché par la chanson. Vous voyez que R.E.M. reprend Wichita Lineman, que Patti Smith l'a repris. Et là, vous vous dites vraiment « Je suis un imbécile, j'ai jamais entendu parler de cette chanson magnifique ».
I am a lineman for the county. And I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire. I can hear you through the whine and the Wichita line. Still on the line. I know I need a small vacation.
Cette chanson, Frédéric, s'appelle donc Wichita Lineman. Elle est sortie en 1968.
Et si Axel Bauer a souhaité qu'on l'écoute, eh bien c'est d'abord parce qu'il aime beaucoup sa construction mélodique, assez subtile, assez complexe même, et puis il aime aussi l'histoire qu'elle raconte, cette chanson.
Le lineman de Wichita, difficile à traduire d'ailleurs parce que c'est le monteur de ligne de Wichita, qui est une ville aux États-Unis. Jimmy Webb, compositeur et auteur de la chanson, raconte qu'il est sur une route et qu'il voit un monteur de ligne, c'est-à-dire ces gens qui travaillent sur les poteaux à l'époque, qui réparent les lignes téléphoniques qui sont tombées sous l'orage, etc. Et ce type entend dans la ligne la voix d'une femme qui chante et il lui dit avec beaucoup d'émotion qu'il a besoin d'entendre sa voix pour continuer à travailler. Alors c'est une sorte de métaphore à la fois de la solitude, du monde dur du travail, parce qu'il travaille en plein soleil, et puis de l'amour. Il y a quelque chose de mélangé dans cette douceur et dans cette incroyable composition de Jimmy Webb, Wichita Lineman.
Il y a un nombre incroyable de reprises, vous l'avez dit, de cette chanson-là. Vous en avez écouté, j'imagine, beaucoup.
Oui.
Pour vous, est-ce que c'est cette version de Glen Campbell qui reste la plus réussie ?
Pour moi, ça reste la meilleure. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than won't you. For all time, and the Wichita lineman is still on the line.
Est-ce qu'aujourd'hui, cette chanson-là, vous dites aussi, c'est la plus belle chanson du monde?
Je me dis que c'est une des plus belles chansons du monde, pas la plus belle chanson du monde, mais je regrette quelque chose. Je regrette que bien que nous soyons très attachés à notre culture et parfois un peu envahis par la culture américaine, on ne connaisse pas en France cette chanson. Et c'est ça que j'ai regretté.
Là, vous allez la faire découvrir à pas mal de gens.
2 800 000 personnes.
4 millions.
4 millions.
C'est une façon de réparer cet impair.
Eh ben oui. Merci de me donner l'occasion de partager ce morceau fabuleux avec vos auditeurs. It's still on the
line. On est plutôt autour de 10 millions, mais c'est un détail.
14
millions. Wichita Lineman, Clay Campbell. C'était donc Frédéric, le choix d'Axel Bauer.
Axel Bauer qui fête cette année les 40 ans de Cargo. Déjà 40 ans. Bel anniversaire.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Ça s'amuse bien chez vous apparemment. Hein.
Comme des petits fous. Et vous, quel est le programme?
Allez, on va parler de la présence des non-humains dans les villes.
À tout de suite. Ouais.